étions entrés dans cette dernière semaine avant la mort du Seigneur et sa résurrection, donc dans cette semaine sainte que Jésus a vécue à Jérusalem et à Béthanie, puisqu'il faisait les allers-retours, logeant chez Marthe, Marie et Lazare, et repartant ensuite à Jérusalem, notamment au temple, pour enseigner durant la journée. Donc il faut imaginer ces deux atmosphères très différentes pendant cette dernière semaine de Jésus, le repos, la sympathie, la prière aussi sans doute à Béthanie avec cette fratrie qui sont ses amis, hein, on dit Jésus est l'ami de Lazare, hein, donc Lazare est l'ami du Christ, hein, aux yeux des apôtres, donc il y a cette relation vraiment amicale de Jésus à Béthanie avec cette famille, et en contraste, les journées qui à Jérusalem sont beaucoup plus empreintes de tension, même s'il y a cette dimension d'enseignement des foules, et il y a sans doute une grande joie aussi de Jésus de répandre sa lumière et de continuer à parler à ses habitants de Jérusalem, à ses habitants de la cité sainte, qui a une place toute spéciale dans le cœur de Dieu et bien entendu dans le cœur de Jésus. Mais voilà, outre cette joie d'annoncer l'évangile à Jérusalem, il y a aussi cette tension, ce conflit, ces controverses, ces discussions difficiles dont on a déjà parlé, les pharisiens qui essaient de tendre un piège à Jésus, les hérodiens, les sadducéens, donc chacun y va de son piège, y va de sa question pour essayer de prendre Jésus en défaut. Donc, ça, c'est ce que nous avions vu les fois précédentes, et là nous allons basculer sur une atmosphère un peu différente, puisque d'une part il y aura un scribe déjà qui va féliciter le Christ de sa réponse judicieuse, donc là on n'est plus dans les pièges, on est au contraire dans un scribe courageux, puisque voilà, devant ses confrères, devant ses collègues, devant ceux de son parti, ben, il va se désolidariser de ceux qui veulent prendre Jésus en défaut et même de ceux qui ont déjà médité la mort annoncée du Christ, et au contraire, il va le féliciter. Et puis nous aurons en quelque sorte, entre guillemets, je dirais, la contre-attaque de Jésus, puisque c'est Jésus qui ensuite va poser une question qui va laisser ses auditeurs quoi. Étant entendu, comme on l'avait vu il y a quelques semaines, que Jésus ne pose jamais de questions pour le plaisir de mettre ses auditeurs en défaut, même si ça peut être aussi un des résultats de fait qui se passe, mais il pose ces questions aussi pour les ouvrir à une vérité plus grande. Enfin, peut-être que devant cette vérité, ils vont se trouver en défaut parce qu'ils ne veulent pas s'y aventurer, mais Jésus ne les met pas dans une impasse. Enfin, Jésus les met dans un petit ascenseur pour les faire monter plus haut. Après, s'ils ne veulent pas monter un ascenseur, ça les regarde. Mais c'est ce qu'on va voir, et ensuite, nous verrons aussi le jugement de Jésus sur les pharisiens et l'obol de la veuve, qui est une scène assez connue, mais que nous réentendons. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur les fois précédentes. Alors, si la question est, y aura-t-il une messe d'action de grâce avant le dernier caté? Malheureusement, cette question a déjà obtenu sa réponse, donc là, je pourrais difficilement revenir en arrière pour recevoir une deuxième messe. Mais à part cette question, si la question c'est y aura-t-il un caté la semaine prochaine pour qu'on ait la messe, la réponse est non. Je peux déjà donner aussi cette réponse. Non, pas vrai, pas de question. Eh bien, nous sommes au verset 28 du chapitre 12, page 29. Un scribe qui avait entendu la discussion, donc c'est la discussion avec les Sadducéens, vous savez, sur le mariage dans le ciel, est-ce qu'on continue de se marier dans le ciel? Et la belle réponse que le Christ avait faite sur le Dieu des morts et non des vivants, on avait donné un peu la clé de cette réponse du Christ, qui peut paraître assez obscure au départ, et qui, quand on la comprend bien, est très très belle. Donc, on est après cette discussion. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus, prenant la parole, déclarait, « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» David lui-même a dit, « Inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Dans son enseignement, il disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Si on prend épisode par épisode, que vous inspire déjà cette rencontre avec ce scribe de bonne volonté ?
De bonne volonté ?
Non, mais ça tranche avec les confrontations précédentes. Et on peut penser que cette question des commandements n'est pas une question qui voudrait être un piège pour le Christ, c'est une question qui devait sans doute être une question courante, puisqu'il y avait, je crois, 613 commandements répertoriés dans les livres sacrés, commandements positifs comme commandements négatifs, puisque au-delà des 10 commandements que nous connaissons, il y avait un certain nombre de commandements alimentaires, sociaux, sexuels, juridiques, etc. Donc il y avait tout un corps législatif du peuple d'Israël. Et pour des scribes dont la tâche est notamment de recopier et de méditer la loi, bah, c'est vrai que la question pouvait se poser dans cette grande forêt des 613 commandements. Quel est le plus important ? Parce que c'est vrai que c'est important, c'est fondamental pour s'orienter dans cette grande forêt des 600 commandements, de savoir lesquels sont les commandements majeurs. Donc on peut penser que ce n'est pas une question piège, mais que c'était une question courante qui devait voilà, être posée dans les écoles parmi les scribes et les pharisiens, et que c'était un sujet de dissertation parmi les rabbis, de savoir quel est le premier, enfin, le plus important, de ces très nombreux commandements. Donc le Christ répond par une citation du livre du Deutéronome, « Écoute Israël », qui est un passage qui est encore aujourd'hui dans le judaïsme, est un passage extrêmement important, qu'on appelle le « schéma Israël ». Ce n'est pas parce qu'il dessine un schéma, mais c'est parce que « schéma », ça veut dire « écoute ». Donc, « écoute Israël », et c'est vraiment l'affirmation par Dieu de son unicité. Et donc, c'est vraiment un passage très important, évidemment, dans l'Ancien Testament, quand tous les peuples autour d'Israël sont tous polythéistes, parce que c'est vraiment ça qui fait l'originalité et la gloire d'Israël, de croire en un Dieu unique. Et puis, il y a cette demande, voilà, puisque je suis unique, eh bien, toutes tes forces, toute ton âme, tout ton cœur doivent aller à moi. Il n'y a pas à se disperser dans une multiplicité de dieux, d'idoles, de divinités. Donc, à la conséquence de cette unicité de Dieu, ce n'est pas seulement une affirmation philosophique, que voilà, Dieu est unique, très bien, il y a une conséquence très immédiate, très concrète, puisque je suis l'unique, eh bien, tout ton cœur doit aller à moi. On l'a souvent dit, hein, Dieu présente souvent les rapports avec son peuple comme une alliance, donc comme une épousaille, comme un mariage. Et donc, de même que dans un mariage, voilà, il y a un homme unique, une femme unique, et que chacun donne son cœur et tout son cœur à l'autre, et bien de même, dans cette alliance religieuse entre Dieu et son peuple, dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Je suis unique ». Il dit à son peuple « À mes yeux, tu es unique », parce que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, effectivement, a une dignité unique. Et donc, il demande, eh bien, à son peuple cet amour vraiment total, un peu comme lors du mariage, hein, on promet un amour total à son conjoint. Donc, il y a cette idée, voilà, affirmation du Dieu unique, et parce que Dieu est unique, eh bien, on lui donne tout son cœur. L'originalité du Christ étant d'adjoindre donc, ce deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui certes est déjà présent dans l'Ancien Testament, c'est pas une nouveauté évangélique de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais en tout cas ce qui est une nouveauté, c'est déjà de le mettre au même plan, au même niveau, au même degré que l'amour de Dieu. De dire que finalement, voilà, comme dira Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain est un menteur. Parce que si j'aime Dieu, eh bien, j'aime tous ceux que Dieu aime, et donc j'aime aussi mon prochain. Et Saint Jean dira, bah oui, le prochain, c'est en quelque sorte le vérificateur de notre amour de Dieu. Parce que, oui, aimer Dieu qu'on ne voit pas, d'un côté, c'est facile. D'un côté, on peut dire que c'est difficile, précisément parce qu'on ne le voit pas et qu'il faut la foi. Oui, mais en même temps, Dieu ne laisse pas traîner ses chaussettes dans le salon le soir, Dieu ne laisse pas ses poils dans la douche... Dieu ne discute pas dans notre dos, voilà, Dieu n'empiète pas sur notre mur lorsque nous ne sommes pas là et ne tire pas un peu plus loin sa propriété, Dieu ne nous crache pas par terre à nos pieds, Dieu n'est pas un civil en voiture. Il y a beaucoup de choses que peut faire notre prochain qui peuvent être assez exaspérants et que Dieu ne fait pas. Déjà, il ne fait pas parce qu'il est parfait, parce qu'il est infiniment bon, et puis aussi parce que, étant invisible, il y a un certain nombre de choses du prochain qui ne sont pas d'ailleurs, bon, là, j'ai fait plutôt des listes assez négatives, mais il y a des choses que le prochain peut faire qui ne sont pas en soi des péchés, mais qui peuvent vite nous exaspérer, solliciter notre patience, notre charité. Et donc, Saint Jean dit, voilà, là, c'est le vérificateur de notre amour de Dieu. Parce que si si on aime Dieu, eh bien, on aime comme Dieu aime. Or, Dieu aime tous les hommes, et donc il aime aussi le prochain, un peu désagréable, un peu exaspérant. Et ça, c'est assez nouveau. Enfin, ce lien que saint Jean fera dans son épître, il le fait parce qu'il est à l'école de Jésus, qui lui-même fait ce lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et évidemment, on va voir après que c'est un des reproches que Jésus fait aux pharisiens et aux scribes. Voilà. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous êtes méprisant avec le prochain, orgueilleux, vous volez les veuves, etc. Et donc, finalement, vous êtes tellement peu dans l'amour du prochain, bah, qu'à la fin, même votre amour de Dieu sonne faux. Et donc, il y a cette idée de que les deux vont toujours de pair et que l'un est la source de l'autre, que l'amour de Dieu est la source de notre amour du prochain, et que en même temps, bah, notre amour du prochain est notre manière de vérifier finalement notre amour de Dieu. Puisqu'on parle bien d'un amour du prochain qui n'est pas un amour naturel, qui n'est pas un amour de sympathie, d'atomes crochus, de relations faciles qu'on peut avoir avec tel ou tel, mais qui est un amour surnaturel. C'est un amour qui vient de Dieu, un amour que Dieu répand dans notre cœur pour nous donner d'aimer comme il aime. Donc c'est bien un amour surnaturel. C'est ce qu'on entendra samedi dans la messe de cette très belle messe du samedi dans l'octave de la Pentecôte, l'épître de saint Paul, en chapitre 5, saint Paul aux Romains, la charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc l'Esprit Saint qui nous donne d'aimer Dieu et d'aimer le prochain par amour de Dieu, comme Dieu aime. Et ça c'est quand même assez nouveau, ce lien que Jésus fait. Et si on veut développer un peu cet amour du prochain, dans ce qu'il a aussi de nouveau dans l'Évangile, qui n'apparaît pas forcément ici, mais dans d'autres endroits, ce qui est nouveau dans l'Évangile, c'est l'amour des ennemis, par exemple. Parce que les Juifs, dans ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », eux avaient plutôt tendance à comprendre, hein, tu aimes celui qui est proche, et ça Dieu te le demande, mais celui qui est loin, le samaritain, le païen, l'idolâtre, etc., le publicain, là, les pharisiens pouvaient avoir tendance à vite exclure de ce commandement tous ceux qui étaient loin, parce que justement on disait bah, le prochain. Il y a eu une discussion sur le prochain dans le bon samaritain, mais Jésus vient nous dire bah, que là, tout homme est notre prochain. Donc Jésus ajoute finalement, ou en tout cas éclaire ce commandement en disant que même les ennemis sont compris dans cet amour du prochain. Et on peut dire aussi ce qui est nouveau, ce qui ne paraît pas non plus ici, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Enfin, ce qui est vraiment le commandement nouveau, comme il est dit dans l'évangile de saint Jean, qui vient ajouter encore à ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », puisque finalement « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça veut dire aussi « aimer son prochain d'une certaine manière plus que soi-même », puisque Jésus nous aime en donnant sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de lui-même, notamment toute sa vie corporelle, sa santé, même on peut dire sa réputation, voilà, tout ce que Jésus va perdre dans la passion, c'est bien qu'il aime moins qu'il nous aime, puisqu'il est prêt à engager sa santé, son intégrité physique, sa réputation, ses amis même, qu'il va perdre aussi en partie, et jusqu'à sa vie corporelle, et ça il les aime moins qu'il nous aime, puisqu'il les engage pour nous. Donc voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas forcément nouveau, parce que ça fait partie de l'Ancien Testament, mais le fait d'y inclure les ennemis, le fait de le relier au commandement de l'amour de Dieu, et le fait de de rentrer dans cette dynamique du Christ, de donner sa vie, tout ça, en revanche, ça, c'est la nouveauté évangélique.
Je vais savoir, justement, je suis toujours demandé, le prochain, c'est celui qui est proche, ou c'est celui qui vient après nous, le prochain.
Alors c'est
comme la semaine prochaine.
C'est plutôt celui qui est proche, mais avec cette lecture nouvelle du Christ, qui nous dit, mais en fait, dans le cœur de Dieu, tout le monde est proche, en quelque sorte.
On pourrait le dire aussi, c'est le prochain, celui qui
vient après. Mais
les jeunes, ceux qui viennent avec, ceux qui viendront après nous.
Mais c'est pas, c'est pas dans ce sens-là. Et je sais pas, après il faudrait vérifier, mais je sais pas si en grec, quoi, ce serait le même mot pour dire le prochain de proximité et le prochain à venir.
On dit semaine prochaine, c'est pas la semaine loin, c'est la semaine proche, la première semaine.
Ouais.
C'est juste la semaine proche.
C'est toujours des biais de proximité. Ouais.
Donc c'est plutôt d'aimer son prochain, son voisin le plus fin, celui qu'on a à sa portée, quoi. Enfin,
L'idée, c'est au départ de dire, l'idée, c'est de dire, il faut pas se replier juste sur soi-même, mais la personne qui est à vos côtés, il faut l'aimer comme on s'aime, c'est-à-dire, il faut pas juste aimer soi, mais la personne qui est à côté, il faut l'aimer comme on s'aime. Mais, justement, cette phrase, elle peut être interprétée de façon je dirais généreuse, en disant il faut sortir de soi-même pour aimer celui qui est à côté, et elle peut aussi être comprise de manière limitative, il faut aimer juste celui qui est à côté et pas celui qui est un peu plus loin. Il y a les deux, soit je sors de moi-même pour comprendre que celui qui est à côté de moi est un autre moi-même en quelque sorte. Et il y a une manière plus limitée de dire il faut juste aimer celui qui est là et pas celui qui est là-bas. Et donc le Christ...
Le voisin, de toute façon, c'est tous des idiots. Non, mais je dis ça, quoi. C'est l'hypocrisie, de trouver dans la facilité, de dire, oui, mon voisin, bon... Oui,
alors,
je ne parle pas, parce qu'en fait...
Alors, bon, d'ailleurs, en première...
Ça nous fait tous,
je crois. Voilà, il y a... Aimer le prochain, c'est celui qui est à côté, mais comprendre que finalement, toute personne à la surface de la Terre peut être à côté de nous, à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, on n'a pas à faire le tri entre celui qui fait un prochain et pas notre prochain. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la dérive moderne qui pourrait se formuler comme tu aimeras ton lointain comme toi-même. Sauf que. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de... Dans la modernité, on a plus de facilité à aimer l'aborigène d'Australie dont on va défendre les droits alors qu'on n'a jamais vu, et qu'en final, on s'en fout, mais ça nous donne bonne conscience de défendre ses droits, et pas le gars qui est effectivement sur notre palier. Ça, c'est encore un problème. Voilà.
Il y a des sortes de séries qui vont vous dire, mais tu n'aimes pas ton prochain. Vous savez, par rapport aux migrants, etc.
Mais, tu peux dire, je pense que c'est plutôt ton lointain, du coup. Mais il faut l'aimer aussi. Mais il ne faut pas l'aimer au détriment de la personne concrète, parce que là encore, on en revient à la phrase de Saint Jean. C'est sûr que c'est plus facile d'aimer l'aborigène d'Australie et de défendre ses droits à être reconnus par l'État australien, parce que l'aborigène d'Australie, on ne le verra jamais, plutôt que d'aimer le voisin qui nous pique notre place de parking en se garant là où il n'a pas droit. C'est sûr que c'est plus difficile. Mais évidemment, le Christ nous appelle, sans délaisser l'aborigène d'Australie s'il faut ce soit un appel particulier à défendre ses droits, mais c'est d'abord... La personne, effectivement, comme dit Jean-Paul, là, qu'on rencontre, avec laquelle on interagit, celle qui rentre voilà, charnellement, concrètement, et qui parfois rentre en s'entrechoquant dans notre vie, c'est elle qu'il faut.
Et quotidiennement, ouais. L'aborigène d'Australie, à la limite, Il y en a qui vont aller faire une petite excursion humanitaire là-bas, rémunérée, deux semaines, ou puis après, effectivement, c'est d'origine, il y a un petit dans son.
Est-ce qu'il ne faut pas l'aimer dans le sens de la miséricorde que Dieu a pour nous, mais pas la miséricorde, cette miséricorde pour ceux que nous construisons, je ne sais pas.
Si, si, c'est-à-dire, oui, c'est aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire effectivement avoir ce cœur miséricordieux, avoir ce cœur bienveillant, avoir... ce cœur ouvert, je pense, hein, c'est la grande phrase du Saint Curé d'Ars, hein, les saints ont le cœur liquide. Il n'y a pas de dureté dans le cœur des saints, ça ne veut pas dire qu'ils ont le cœur mou, hein, c'est pas de la mollesse, mais il y a ce cœur liquide, c'est ce cœur qui essaye d'emblée, bon, c'est le but, hein, je ne dis pas que c'est facile à réaliser, mais qui essaye d'emblée de voir dans toute personne un frère ou une sœur. Alors, évidemment, par rapport aux ennemis, ce sera un autre enjeu, mais déjà, par rapport aux inconnus, par rapport aux personnes qu'on croise, par rapport aux rencontres comme ça, de passage, aux rencontres d'une heure, aimer son prochain comme soi-même et aimer comme Dieu l'aime, ça veut dire ne pas avoir à son égard une attitude tout de suite de défiance, de jugement, de recul, de dédain, de surplomb, mais d'essayer de... d'avoir le cœur ouvert, je pense. C'est vraiment qui est demandé.
Peut-être que c'est dur, des
fois. Ah, bien sûr, mais ce n'est possible. Ce n'est possible qu'avec
les puissants. C'est un mauvais. Tout pour ne pas lui dire bonjour.
Vous savez, c'est difficile.
Ah, mais c'est un mauvais, c'est dur.
Mais alors.
Je connais d'abord.
Sur la charité de Dieu. Nous demande, en revanche, de maintenir avec toute personne, même avec nos ennemis, tout ça, un minimum, dont le fait de dire bonjour.
Je fais exprès justement le mariage. Ah oui.
Oui. Normalement, là, le minimum, c'est de dire bonjour, évidemment, de répondre au bonjour de la personne. Le minimum, c'est si elle a besoin d'aide et qu'elle nous demande de l'aider. C'est comme le minimum. On le fait avec un inconnu, etc. Il faut le faire avec le prochain. Ouais, ça, c'est le minimum. Hein. Et même si ça peut être très dur lorsqu'il s'agit de personnes qui nous ont énormément blessés, alors, je ne le mettrai pas dans le minimum, mais dans un objectif quand même à atteindre assez vite, qui est de prier pour eux. De prier pour nos ennemis, de prier pour nous qui nous ont fait du mal, c'est ce que le Christ et Saint Paul à sa suite demandent explicitement, de bénir ceux qui nous maudissent, prier pour nos persécuteurs, parce que c'est l'émanation même de la charité. Prier pour eux, c'est vouloir leur bien, c'est vouloir leur salut, leur conversion. Donc ça fait partie. Alors psychologiquement, ça peut être plus dur de prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal que de lui dire simplement bonjour. Donc je ne le mets pas directement dans le minimum, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'atteindre assez vite.
Ouais. Non.
Pour sauver,
on ne prie pas pour
que les
gens qu'on n'aime pas ou
les fous, parce qu'on
n'en voit
pas,
le fait que ça change, mais
oui, parce qu'ils peuvent recevoir une grâce de conversion dans la dernière heure de leur vie qui sera peut-être le fruit de notre prière. La probabilité, je ne pense pas que ce soit faible que ce soit une grande conversion. Après, qu'ils disent oui, sa proportion est peut-être plus faible, mais voilà, si au ciel on apprend que ce sont nos prières qui ont permis que telle personne finalement s'ouvre à la grâce, là, on a quand même bien fait de prier pour elle.
S'il vous plaît, on voudrait dire quelque chose. En fait, cette personne, que je reprends quand même tous les jours, c'est pas la bourrée, dans la télé, on passe tous les jours plusieurs fois par jour. Il habite dans la classe. Et comment. Je me force, je l'avais, je ne fais pas des bêtises, je me force à ne pas lui dire bonjour. C'est facile de dire bonjour à quelqu'un.
Non, non, non. Non, mais faut le dire, comme ça vient du cœur.
Non, mais je veux dire bonjour à quelqu'un qu'on croise dans l'ascenseur. Enfin, l'ascenseur, c'est un peu limite. Enfin, je ne prends pas le même ascenseur. Mais en fait, quelques personnes comme ça, je parle de lui, pour parler du prochain et de la brigette, c'est justement le cas dans le dur, c'est que ce gars-là, je connais bien, hein. Je me force à ne pas lui dire bonjour. Pourtant, je sais que c'est plus facile de lui dire bonjour.
Non, mais c'est plus facile de le dire avec les lèvres.
Oui.
Mais là, l'enjeu de la charité, c'est de lui dire bonjour avec le cœur. C'est-à-dire de lui souhaiter du cœur un bon jour.
Ah ben lui, quand je vois...
Hey. C'est sûr que... Non, mais c'est sûr que... Dire ces deux syllabes, bonjour, c'est facile. Mais la charité, c'est pas seulement de prononcer bonjour, c'est que dans le cœur, bah oui, on lui souhaite que ce jour soit bon pour lui. Alors après, c'est bon, tu l'évites avec les lèvres ou avec le cœur.
C'est plus dur de ne pas lui dire bonjour.
Non, c'est plus dur encore de lui souhaiter vraiment un bon jour.
Voilà.
C'est ça qui est le plus dur.
Ouais, mais bon, en tout cas, je me dis que cette personne-là, en lui opposant un mur, il va peut-être à un moment donné dire qu'est-ce qui arrive.
On attrape plus de mouches avec une curée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. On attrape plus de mouches avec une cuillerée de miel, qu'avec 100 barils de vinaigre.
C'est évident, oui.
Ça veut dire que vous attirez plus les âmes avec la douceur, avec le sourire, avec l'affabilité, qu'avec l'aigreur, la dureté. Ça n'attirera jamais une âme.
Oui.
Et le but, c'est d'attirer. Mais là, vous ne pouvez pas sortir de la maison Saint-Odile en continuant à ne pas lui dire bonjour. Maintenant que vous avez entendu, Et vous cautionnez rien, vous lui dites bonjour. Et en lui souhaitant bonjour, vous lui souhaitez vraiment le vrai bien. Vous lui souhaitez pas seulement que le soleil brille et qu'il mange bien, vous lui souhaitez qu'il se convertisse. Genre. C'est ça, un bonjour.
Oui, qu'il arrête, qu'il habille ses enfants avec des vêtements pour pas que ce genre de gars qui a des gosses, il les fait patauger nus dans les flambeaux devant l'immeuble. C'est un incite, hein. Il y a un peu le schéma, et je connais d'avant pire avant.
Mais après, être bon avec lui, ça ne veut pas dire tout lui passer. Être bon avec lui, mais oui, si vous faites une remarque sur ses enfants, ils sont tout nus dans la flaque, alors que par ailleurs, vous ne lui dites jamais bonjour. Comment peut-on espérer que cette remarque, elle soit entendue? C'est pas possible, ça.
Par le silence.
Ah non. Il faut d'abord créer un lien de convivialité avec lui. Et une fois que vous avez créé ce lien, vous pouvez lui dire, j'ai du mal à comprendre que vos enfants soient tous nus dans les sacs. Et là, il y a une petite chance que peut-être ce soit rassuré. Mais si... S'il n'y a pas ce lien, c'est la phrase de saint François de Sales sur le miel et le vinaigre. Si vous restez...
Porte,
C'est pour ça que c'est dans l'Esprit Saint que c'est possible. Quand le Christ dit sur le mont des béatitudes, aimez vos ennemis, il s'adresse à des gens qui ne sont pas plus forts que nous. Donc cette phrase, elle ne peut être reçue que dans l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous aider à arriver à cela.
Mais est-ce que la charité, c'est pas aussi être dur avec les gens, le reposer un petit peu de pour leur bien, parce que lui, c'est soit le mur, soit il est près de le mur, et derrière il y a un grand trou. Là. C'est,
alors,
ces gens-là,
je vous réponds avec une phrase de Jacques Maritain qu'il faut retenir. Même si c'est pas toujours facile, parce qu'il y a pas mal d'adjectifs, il faut avoir l'esprit dur et le cœur tendre.
Je rappelle comment il dit ça,
parce que
j'ai toujours bien dit.
L'esprit dur, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas se transiger avec la vérité comme un diamant qui coupe. C'est vrai, c'est faux, mais il n'y a pas de milieu. Il faut avoir l'esprit dur, mais le cœur tendre. Parce que trop de gens ont l'esprit dur et le cœur sec, et là ça ne peut pas marcher, on en revient au vinaigre. Si vous avez l'esprit dur mais que vous le dites de manière sèche, que vous ne dites pas bonjour, etc., ça ne peut pas marcher. Ou ont le cœur tendre et l'esprit mou.
Voilà.
C'est-à-dire qu'à force d'avoir le cœur tendre, on dit oui à tout, et puis tout est très bien, puis il ne faut pas vexer, il ne faut pas blesser, etc. Et à la fin, ça fait un esprit mou, puisqu'il n'y a plus de vérité. Donc, le juste milieu, il faut avoir l'esprit dur et le cœur tendre. Et le cœur tendre, c'est-à-dire qu'il faut dire bonjour.
Je veux simplement vous dire que je me force volontairement, je vous l'ajoute par charité, ce n'est pas des blagues, à lui parler.
Et je crains que cette charité mal éclairée.
Il va bien se dire, mais pourquoi il ne me dit pas bonjour? Tu sais, c'est pas facile de ne pas dire bonjour à quelqu'un. Quand vous prenez quelqu'un dans une
porte,
c'est pas facile de ne pas lui dire bonjour.
Si vous me passez l'expression, il se dit peut-être ce mot-là quelque part.
Ah, mais ça, c'est clair, depuis le début.
Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut.
Et des connards finis, quoi.
Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça peut éveiller que vous ne disiez pas bonjour? Il dit, c'est un con, c'est tout. Non, mais lui, il dit de vous, c'est un con. Il ne dit pas bonjour, c'est un con.
Là, je pense qu'il dit. Il voit bien que. Oui, il voit bien que je fais des efforts pour lui. Pour le. Non, mais c'est comme si un gamin, vous lui. Je sais pas, enfin.
Moi, je vous dis, ça ne porte pas de fruits. On ne peut jamais vaincre le démon avec les armes du démon.
Non, mais lui, il dit bonjour à tout le monde.
On ne peut jamais vaincre le mal avec les armes du mal. Les armes du mal, elles sont empoisonnées.
Ah oui,
si vous voulez les saisir, elles vous tuent. Donc, quelqu'un qui peut-être est violent ou orgueilleux ou 68 ans, n'importe quoi, quelqu'un qui est dans le camp du mal, on va dire, vous ne pouvez pas le vaincre en étant vous-même dans le camp du mal. Parce que sinon, vous êtes dans son camp. Et ne pas lui dire bonjour, adopter cette attitude de fermeture.
De fermeture, pas sur ça.
Ah si.
Non, mais
c'est sûr, hein. Ah si. Et ben, vous mettez en dehors du chemin de l'évangile. Donc, si vous voulez. Oui, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Combien de chrétiens en politique ont voulu vaincre le mal en prenant les armes du mal et en disant j'arriverai toujours à m'en sortir et puis à me laver les mains, etc. Mais non, on ne peut pas vaincre le mal en prenant les armes du mal.
Mais le mal, c'est aussi bonjour, Christ l'ami.
Non, ce que je vous ai dit, l'enjeu n'est pas de dire bonjour de façon hypocrite ou avec les lèvres. L'enjeu est de lui dire bonjour avec le cœur et qu'il sente que vous lui dites un vrai bonjour. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que vous lui aurez dit bonjour et qu'il va vous dire Vous aimez bien quand mes gamins se baladent à poil dans la sac d'eau, vous n'allez pas dire ah oui, c'est hyper sympa. Non, ça ne veut pas dire ça. Bonjour, ça ne veut pas dire je vous fais un chèque en blanc et vous avez le droit de tout faire.
Non, mais non. Non, mais je trouve que c'est plus difficile de. Je me force à ne pas lui dire bonjour, mais je sais que c'est facile de dire bonjour à la bouche. C'est le droit, mais c'est le droit. Ah, mais attention, il y a le droit.
C'est quand même. Elle t'a battu, donc.
Je ne dis pas bonjour non plus à 5 ans.
Ouais, et puis dis bonjour que t'as dit. Oui,
il y a.
Non, mais
tu lui
dis
bonjour.
Non, mais il y a 3 marches. Il y a la marche. Je dis bonjour de façon hypocrite, qui est la plus simple, effectivement. Il y a la marche.
C'est
pour ça que je dis il y a la marche. Dire bonjour de façon hypocrite. Il y a la marche, je ne dis pas bonjour et peut-être que je vais avoir mauvaise réputation, etc., mais par fermeté, par honnêteté, je ne dis pas bonjour. Donc ça, c'est la marche où est Jean-Charles. Puis il y a la marche de la charité dans l'Esprit Saint qui est, même si c'est mon ennemi, je lui dis bonjour, non seulement des lèvres, mais du cœur. Avec la foule.
Non, mais c'est ça, mais c'est vous qui avez. Non, non, c'est déjà pas mal.
Oui, mais il faut. Monte plus haut, dit Jésus.
Encore un an, qui me croit tous les jours et que je ne dis pas bonjour, un jour, quand je vais aller le voir, il va me prononcer. Enfin, je veux dire, il va dire, là, que j'ai quelque chose à lui dire.
On continue. Oh là, j'en ai un.
J'ai pas revu avec ses gosses dans les salibos.
Tu vois, c'est dévolu, je pense.
Il a fait cette vie. Ah bon, c'est le prochain.
Donc, c'est le prochain. Donc, le premier commandement, le deuxième commandement. Et la réponse du scribe qui peut-être est intérieurement soulagé aussi que Jésus professe cette foi en un Dieu unique, puisque vous savez que les scribes et les pharisiens reprochent à Jésus se faire Dieu. C'est à plusieurs reprises, ils ont voulu le lapider parce que Jésus revendique un rang divin. Et là, sans doute que ce scribe est soulagé d'entendre que Jésus croit au Dieu unique. Il n'y a pas encore évidemment cette conscience de la Sainte Trinité que Dieu est à la fois un et trine. Donc il va déjà dire, bon, ben, c'est bien, au moins ce Jésus de Nazareth partage la foi d'Israël en un Dieu unique, et peut-être qu'on a mal compris quand il revendiquait un rang divin, ça, parce que sans doute que ce scribe n'arrive pas à faire le lien entre la foi d'Israël en Dieu unique et la divinité de Jésus. C'est pas quand même. Voilà, dans la lumière de Pâques et de la Pentecôte, qu'on pourra vraiment comprendre comment Jésus est Seigneur et qu'en même temps, il n'est pas autre que Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même. Donc ensuite, notre brave scribe reprend en bon élève tout ce que Jésus vient de dire, en ajoutant que tout ça vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Je ne sais pas si ça vous rappelle un psaume. Je n'ai pas dit celui-là, mais les dépôts de la tête, c'est le psaume 21. Voilà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est plutôt, dit le psaume 50.
Oui.
Ouais. Plus que les holocaustes et les sacrifices, un cœur broyé, quelque chose. Ouais. Ouais, c'est 50. C'est le psaume prié par David quand Nathan est venu lui parler du péché qu'il avait commis avec Bethsabée. Le psaume du miséréré. Le scribe cite le psaume 50. Et donc Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ce qui, dans la bouche de Jésus, quand même, on aimerait bien tous entendre cette phrase. Oui.
Alors, du coup, personne n'aurait
été interrogé. Ça, je pense que c'est plutôt une phrase qui conclut toute la séquence. Plutôt que juste cet épisode, je pense que ça conclut toute la séquence de ces questions pièges à laquelle, auquel Jésus à chaque fois a répondu avec succès. Puisqu'on va voir que ensuite ça bascule sur une autre séquence où c'est là, c'est Jésus qui pose la question. Donc, je pense que cette phrase, au contraire, le dernier échange est plutôt assez fructueux. C'est, là, le scribe pose une question honnête, Jésus répond bien, le scribe abonde dans ce sens, donc on comprendrait mal que ce « personne n'osait plus interroger » se réfère à ce dernier échange qui, au contraire, s'est plutôt bien passé.
Oui, mais c'est comme s'il craignait justement...
Que des scribes...
Évidemment, pour lui, c'est là qu'on s'est accompli, mais comme si les autres... craignaient de ne pas faire aussi bien que le scribe, et du coup, de s'attirer ce compliment de Jésus.
On peut dire ça, mais je pense que c'est plutôt une phrase qui englobe tous les échanges, et notamment les échanges où le Christ a un petit peu, entre guillemets, cloué le bec de ses interlocuteurs. Donc l'échange des les pharisiens, les hérodiens avec doit-on payer l'impôt ou non à César, et puis les sadducéens avec la question de, du mariage, etc. Oui, là, je pense qu'il n'y a pas d'exégèse particulière sur... Parce que vous voyez, par exemple, de tout ton esprit, dans la typographie, dans la réponse de Jésus, n'est pas en italique, mais en caractères normaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, c'est pas en italique, donc c'est sans doute pas dans le Deutéronome à proprement parler. Donc, une petite variante. Le père de Longchamp a ajouté à ce commandement, je trouve que c'est assez beau, surtout à notre époque, et de tout ton temps. Le temps étant devenu une valeur extrêmement précieuse, il a ajouté dans une de ses conférences, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton temps. Je trouve que c'est une précision assez intéressante. Hein, parce que, le cœur, ça peut paraître un peu théorique, la force aussi, mais de tout ton temps, ça, c'est très, on voit bien ce que ça veut dire. Quoi. Est-ce que vous voulez qu'on parle un tout petit peu de fils et seigneur de David ou vous voulez qu'on monte faire oraison? On enchaîne juste avant, puisque ça. On va venir compléter un peu ce qu'on disait sur Jésus, Seigneur et en même temps le Dieu unique. Donc, alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus, prenant la parole, déclarait : comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Ça, c'était un titre. Fréquent, hein, qu'on retrouve dans le Hosanna au fils de David, le jour des rameaux, et il y a plusieurs reprises dans l'évangile, donc c'était classique pour les Israélites que le Messie viendrait de la descendance de David, qu'il appartiendrait à la famille de David. C'était dans le psaume 132, Dieu avait promis à David qu'il lui donnerait un successeur et que toujours sur son trône se tiendrait le Messie. Donc ça, c'est un titre classique. Donc, Jésus part de ce titre communément admis, enfin, le Messie est le fils de David, très bien, mais David lui-même a dit, et inspiré par l'Esprit Saint, il ne l'a pas dit de façon personnelle, comme ça, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Donc, le Seigneur, c'est Dieu, qui dit à mon Seigneur, c'est le Messie, à qui Dieu demande de siéger à sa droite. Et donc Jésus pose la question au scribe, comment le Messie, la même personne, peut-elle être regardée par vous comme fils de David, et en même temps David lui-même l'appelle son Seigneur. Et donc, personne ne peut répondre. Mais vous qui êtes chrétien, vous savez comment répondre. Oui, alors j'aurais pas tout à fait répondu dans ces termes-là, mais... Qui est le Messie?
Dans les faits, c'est la messe de minuit, donc...
Qui est le Messie? Alors, c'est le Fils. Oui, alors le Fils et le Père, c'est pas ils sont Dieu, oui, mais ils sont un chien. Mais quel est le prénom du Messie? Jésus. Et Jésus, il est à la fois homme et Dieu. Et c'est en ce sens-là. En tant qu'il est Dieu, il est le Seigneur de David. En tant qu'il est homme, il est son descendant. Et donc, cette question du Christ, en fait, ouvre la porte. Comme je disais, on fait monter les scribes dans un petit ascenseur pour les amener à cette idée que le Messie, c'est-à-dire Jésus, puisque toute la controverse tourne autour du fait que quand même une grande majorité du peuple reconnaît maintenant Jésus comme le Messie. Donc, l'enseignement que Jésus veut donner à travers cette question, c'est de leur faire comprendre que lui, Jésus, Messie, il est à la fois, effectivement, fils de David par la Sainte Vierge, descendant de David, et il est né à Bethléem, dans la cité de David, mais qu'il est aussi seigneur de David, et qu'il est seigneur de David parce qu'il est Dieu, puisque le titre de seigneur est un titre divin dans l'Ancien Testament. Puisque pour ne pas avoir à prononcer le nom de Yahvé, qui est trop saint pour être prononcé, les Juifs disaient à la place Seigneur. Donc quand ils entendent Seigneur, ils savent ce que ça veut dire. Et donc Jésus, vous voyez, c'est un moment quand même très important, cette question, si personne n'y arrive à y répondre, puisque Jésus leur fait comprendre, voilà, vous me reconnaissez comme le fils de Marie et de Joseph, comme étant effectivement de la descendance de David, mais je suis aussi seigneur de David parce que j'ai une identité plus mystérieuse que celle d'être simplement le fils de Marie. Je suis le fils du Père. Et ce dialogue que David entend, c'est le dialogue à l'intérieur de la Sainte Trinité où Dieu le Père dit à Dieu le Fils, siège à ma droite.
Comment
ça se dit en hébreu, Seigneur? Elohim. Elohim. Non, 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 j'ai n'importe quoi. Adonai, vraiment. C'est n'importe quoi. Adonai. Adonai.
J'ai entendu, enfin, ça c'est que Seigneur, la racine étymologique, ça veut dire l'ancien.
Oui, en latin,
en latin. Ouais. Seigneur, fénil, fénil pour qualifier quelqu'un de l'ancien.
Oui, en latin, oui.
J'ai plus quoi,
mais en grec, par exemple. Kurios. Oui, mais quelle est la racine? Maria, tu te convoquais. Pourquoi?
Parce
qu'elle est grecque. Non, mais moi, je ne sais pas non plus. Je vous compte. Curieux, je ne sais pas. Et Adonai, je ne sais pas non plus. S'il faut un lien aussi avec ça, l'âge et l'ancienneté, je ne sais pas.
Il y a forcément une racine.
Il
y a quelque chose.
Ah, ben il y a toujours une racine. Il
y a toujours.
Non, mais on peut voir d'où vient. Je pourrais me saisir du bailli en passant.
Le
bailli?
Oui,
c'est
un
dictionnaire étymologique.
Dictionnaire grec français.
Bailli.
Bailli. Exactement. J'en ai même deux noms. Et le frère jumeau du bailli, Gassio, pour le latin, né à Liège. Félix Gassio.
C'est
un franc-comtois. Auteur d'une magnifique dictionnaire. Et je crois qu'à Liège, il y a une plaque, j'ai vu, il me semble, en honneur de Philippe Gaffio. Et j'ai eu un contact avec un monsieur Gaffio qui voulait que j'aille voir sa. Vous connaissez ça? Oui, oui. Il voulait que j'aille voir sa marraine à Rochefort. Hein. Et je lui ai demandé s'il était de la famille, il m'a dit que oui, c'était un petit neveu de l'auteur du dictionnaire. Ah, là, le gaffio récent, je ne sais pas, mais il m'a dit qu'il fallait être SNCF, alors je ne sais pas s'il fait des annonces en latin. Mais...
C'est Bailly.
Bailly, oui.
C'est
Irec. Irec,
oui. J'ai déjà un dictionnaire d'étymologie.
La manette, c'est pour laver les ménages, donc c'est vrai que vous en parliez un petit peu.
Ouais. Ça peut être un bon. De la croche, hein. Et peut-être inviter Bernadette tiens, pour qu'elle fasse le lien.
Mais d'abord, parce qu'il est militaire.
C'est militaire.
Ouais.
C'est Bernadette, hein. Vous pouvez aider Marie-Louise aussi, du coup, qui fera le. Vu qu'elle fait déjà le lien entre Bernadette et Jean-Charles. Ouais. Et non, 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 on ne sort pas de la maison Saint-Odile pour aller monter sur la troisième, non.
Le coup, c'est déjà de pas.
Non, mais on dort ici.
Déjà de
ne
pas
descendre
sur la première.
Non, non, non. Mais la première, on l'oublie, elle est. C'est bon, c'est bon, elle est passée, là.
Non, non. Bah, mais je suis sûr qu'il s'arrange au fil de croisée.
Donc il m'a dit, oh ben, moi je vais pas à la messe parce que comme je vous entends, enfin, quand j'entends les chrétiens radoter en sortant de la messe, enfin je vous fais attention, si je pense de dire bonjour.
Ah, mais c'est sûr que d'être identifié comme chrétien nous oblige à un témoignage et à une attitude plus exemplaire encore. Et comme les scouts en uniforme, le fait d'être en uniforme et d'être identifié par tout le monde comme scout, évidemment, oblige à une attitude encore plus exemplaire. C'est ça qu'on dit que l'uniforme est à la fois un privilège et un. Et une joie et en même temps un devoir et une exigence. Oui, là,
c'est que ça.
Oui, mais là, comme souvent, c'est que vous avez un aise, vous avez, il faut le dire bonjour.
Bonjour à tout le monde. Hein. Donc, lui,
bon, allons-y prier pour que Jean-Charles soit, soit touché par l'Esprit Saint.
Mais je ne blague pas, donc ça me pose des questions.
Et on ne blague pas.